Mes très illustres seigneurs, mon frère Julien vient d'être assassiné et mon gouvernement court les plus grands dangers. Le temps est venu, mes seigneurs, de venir à l'aide de votre serviteur Laurent. Envoyez toutes les troupes que vous pouvez dès que possible pour qu'elles soient le rempart et la sûreté de mon État comme elles l'ont toujours été. Lettre de Laurent de Médicis au Sénat de Milan, le 26 avril 1478.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
C'est donc par ces mots que Laurent de Médicis prévient les autorités milanaises de l'attentat auquel il vient d'échapper le jour même, mais qui a été fatal à son frère Julien lors de la messe dans la cathédrale Santa Maria del Fiore. Le projet d'assassinat a été organisé par la famille des Pazzi, vieille famille de notables et de banquiers florentins. Pourquoi cette tentative, alors que les Pazzi s'étaient ralliés à Côme de Médicis en 1434, lorsque celui-ci arriva au pouvoir? À ce moment-là, le chef de la famille est Andrea Pazzi, qui est remarqué pour ses actions de mécène, comme le financement de la chapelle qui prit le nom de la famille à l'église Santa Croce. Ses fils, Piero et Jacopo, sont gonfaloniers de justice, c'est-à-dire responsable de la justice à Florence, en 1462 et 1469. Les liens entre la famille Pazzi et la famille Médicis sont renforcés par le mariage de Bianca, sœur de Laurent et Julien de Médicis, avec Guglielmo Pazzi. D'autre part, les Pazzi aident le pape Sixte IV, élu en 1471, à acheter le comté d'Imola pour son neveu Girolamo, ce qui lui vaut d'avoir le monopole de l'Allain à Rome, alors que les Médicis, qui ont refusé tout prêt au pape, perdent la gestion de la chambre apostolique. Les causes du complot ont pour raison principale la tendance à la monopolisation du pouvoir politique par les Médicis. Tout particulièrement depuis que Laurent a succédé à Piero en 1469. Tout en gardant les apparences de la République florentine, Laurent personnalise de plus en plus le pouvoir, créant le Conseil des 70, qui est à sa solde, et le Conseil des 8, chargé de surveiller et punir ses éventuels ennemis. Laurent s'en prend aussi aux intérêts financiers des Pazzi, qu'il redoute, et confisque l'héritage de Béatrice Girolamo, épouse de Giovanni Pazzi et fille du richissime Giovanni Girolamo, au prétexte que celui-ci, mort sans héritier mâle, n'a pas officiellement placé sur son testament le nom de sa fille. C'est donc à partir de l'été 1477 que se met en place le complot destiné à se débarrasser des Médicis au nom des libertés florentines. Ceci est d'ailleurs un commode prétexte qui cache l'affrontement de deux ambitions. Parmi les principaux instigateurs se trouvent le banquier Jacopo Pazzi, son neveu Francesco, Girolamo Riario, le neveu du pape Sixte IV, Francesco Salviati, archevêque de Pise et ennemi des Médicis, depuis que Laurent a refusé de le voir devenir archevêque de Florence. Le pape, mis au courant, donne son accord, mais demande que les Médicis soient chassés sans effusion de sang. Ferrante, roi de Naples, soutient également la conspiration. Malgré les réticences de Sixte IV, les conjurés décident d'éliminer physiquement Laurent de Médicis et son frère. La date du dimanche 26 avril 1478 est choisie, correspondant à la visite du cardinal Raffaele Riario, neveu du souverain pontife et légat à Pérouse. C'est au cours du banquet qui doit suivre la messe que les conjurés ont décidé de frapper les Médicis. Or, à quelques heures de l'événement, Julien, blessé peu de temps avant lors d'un accident de chasse, fait savoir qu'il ne viendra pas au banquet. Tout est donc remis en cause. Malgré le caractère sacré de l'office divin, les conjurés pensent que le mieux est désormais de tuer les Médicis immédiatement à la fin de celui-ci. En l'occurrence, les témoignages divergent sur le moment exact de la tentative d'assassinat. On a évoqué la possibilité de tuer pendant l'élévation, alors que tout le monde a la tête baissée. au moment de la communion, où les gens bougent, créant un peu de confusion. Ou alors, au moment de l'ite missa est, c'est-à-dire l'envoi à la fin de l'office. L'assassinat doit s'accompagner de la prise du contrôle du palais de la Seigneurie, centre du pouvoir florentin. Cette tâche est confiée à l'archevêque Salviati. En ce qui concerne l'exécution du meurtre, Francesco Pazzi et un complice, Bernardo Bandini, doivent s'occuper de Julien. Un mercenaire, Giambattista de Montesacro, a été contacté pour trucider Laurent. Lorsqu'il apprend que l'exécution doit avoir lieu dans la cathédrale, au moment de la messe, il est pris de scrupules et refuse. Comble de la situation, ce sont deux prêtres, Antonio Maffei et Stefano de Bagnone, qui le remplacent dans la salle besogne. Au moment convenu, Julien est poignardé. On rapporte qu'il reçoit 21 coups de dague devant la chapelle de la Sainte-Croix. Laurent, qui n'a pas baissé la tête au moment de l'élévation, réussit à voir les agresseurs. Il n'est que blessé au cou, parvient à se dégager, à sauter au-dessus de la clôture du chœur et à trouver refuge dans la sacristie où il se barricade avec quelques proches, dont le poète Angelo Poliziano. La confusion la plus totale règne dans la cathédrale. Mais rapidement, la situation tourne très mal pour les conjurés. L'archevêque Salviati tente, comme convenu, de se rendre maître du palais de la Seigneurie. C'est un échec total. Les partisans des Pazzi ont pu pénétrer dans le siège du pouvoir florentin et sont tués sur place ou défenestrés alors que Salviati est arrêté. Pour sa part, Francesco Pazzi a trouvé refuge chez son oncle Giacomo. Des soldats viennent s'emparer de lui. Il est pendu à l'une des fenêtres du palais de la Seigneurie, tout comme l'archevêque. Giacomo Pazzi a pu s'enfuir de Florence, mais reconnu, il est ramené dans la capitale de la République et est pendu lui aussi à la Seigneurie. Son corps subit d'ailleurs de multiples outrages. Un mois après l'enterrement à Santa Croce, la dépouille est enlevée de son tombeau pour être placée au pied de la muraille orientale de la ville. Puis, suite à des pluies torrentielles qui risquent d'endommager les récoltes et qui tendent à prouver la colère divine contre les défunts, le cadavre est à nouveau déterré par des enfants qui vont le traîner dans les rues de Florence sous les lazzi populaires avant de le jeter dans l'Arno. Quant au dernier des principaux comploteurs, Bernardo Bandini, il a pu se réfugier à Constantinople. Restent les deux prêtres, réfugiés dans le couvent bénédictin proche de la cathédrale. Des soldats vont les y arrêter le 3 mai. Battus par la foule qui leur coupe les oreilles et le nez, ils sont pendus à la Seigneurie. Mais la vengeance du magnifique ne s'arrête pas là. Sandro Botticelli reçoit commande de peindre les portraits des traîtres afin qu'ils soient exposés au public. Une véritable condamnation de la mémoire frappe les traîtres et la famille Pazzi. Le nom des Pazzi est effacé de tous les monuments publics. Le carrefour appelé Canto dei Pazzi est débaptisé. Le char, qui tous les samedis saints promène dans Florence des pierres du Saint-Sépulcre ramenées de Jérusalem par un des ancêtres Pazzi en 1099, ne porte plus le nom familial. On assiste à une véritable vendetta qui abat tous les membres de la famille vaincus par la mort, l'emprisonnement, l'exil. Pour un temps, le pouvoir des Médicis est renforcé en Florence. Qui ose alors s'élever contre la puissance du magnifique ? À la fois mécène, amateur d'art, encore populaire pour ses libéralités envers le petit peuple florentin, il sait également et conjointement frapper sans pitié au nom d'une raison d'État qui annonce le livre écrit quelques années plus tard par Machiavel, Le Prince. La grandeur artistique de l'Italie de la Renaissance est également, comme nous venons de le voir, celle d'une réelle violence politique. Déjà, en 1412, Giovanni Maria Visconti est assassiné à Milan. tout comme l'est également Galeazzo Maria Sforza en 1476. De même, dans la Rome pontificale de ce temps, on complote et on s'empoisonne pour quelques bribes du pouvoir. Au moment où triomphe Laurent le Magnifique, un dominicain que personne ne connaît encore vient de s'installer, venant du couvent de Saint-Dominique de Bologne à Florence. Il commence à observer la société et la politique de son temps avec révulsion. Il s'appelle Girolamo Savonarole, une autre opposition aux Médicis va bientôt débuter.